Pour commencer, camarade, reprit Socrate, on dit que cette terre-là, vue d'en haut, offre l'aspect d'un ballon à 12 bandes de cuir. Elle est divisée en pièces de couleurs variées, dont les couleurs connues chez nous, celles qu'emploient les peintres, sont comme des échantillons. Mais là-haut, toute la terre est diaprée de ces couleurs, et de couleurs encore bien plus éclatantes et plus pures que les nôtres. Telle partie de cette terre est pourprée et admirable de beauté, telle autre dorée, telle autre, qui est blanche, est plus brillante que le gypse et la neige. Et il en est de même des autres couleurs dont elle est parée, et qui sont plus nombreuses et plus belles que celles que nous avons pu voir. Et en effet, ces creux mêmes de la terre, étant remplis d'eau et d'air, ont une couleur particulière qui resplendit dans la variété des autres, en sorte que la terre se montre sous un aspect continuellement varié. À la qualité de cette terre répond celle de ses productions, arbres, fleurs et fruits. La même proportion s'observe dans les montagnes, dont les roches sont plus polies, plus transparentes et plus belles de couleur. Les petites pierres d'ici, tant prisées, les cornalines, les jaspes, les émeraudes et toutes les autres de même nature, n'en sont que des parcelles. Mais là-bas, toutes les pierres sont précieuses et encore plus belles. Et la cause en est que les pierres de ces régions sont pures et ne sont pas rongées ni gâtées comme les nôtres par la putréfaction et la salure due aux sédiments qui sont déversés ici, et qui apportent aux pierres, au sol et aux animaux et aux plantes la laideur et les maladies. Quant à la terre elle-même, outre tous ses joyaux, elle est encore ornée d'or, d'argent et des autres métaux précieux. Ils sont exposés à la vue, considérables en nombre et en dimension, et répandus partout, en sorte que cette terre offre un spectacle fait pour des spectateurs bienheureux. Elle porte beaucoup d'animaux et des hommes, dont les uns habitent le milieu des terres, les autres au bord de l'air, comme nous au bord de la mer, d'autres dans des îles entourées par l'air, près du continent. En un mot, l'air est pour eux ce que l'eau et la mer sont ici pour notre usage, et ce que l'air est pour nous, c'est les terres qu'il est pour eux. Leurs saisons sont bien tempérées, qu'ils ne connaissent pas les maladies, et vivent beaucoup plus longtemps que ceux d'ici. Pour la vue, l'ouïe, la sagesse et tous les attributs de ce genre, ils nous dépassent d'autant que l'air l'emporte en pureté sur l'eau, et les terres sur l'air. Ils ont aussi des bois sacrés et des temples que les dieux habitent réellement, et des voix, des prophéties, des visions de Dieu, et c'est ainsi qu'ils communiquent avec eux. Ils voient aussi le soleil, la lune et les astres tels qu'ils sont, et le reste de leur bonheur est en proportion de tous ces avantages. Telle est la nature de la terre en son ensemble, et des objets qui s'y trouvent. Quant aux régions enfermées dans ces cavités, disposées en cercle dans tout son pourtour, elles sont nombreuses, et tantôt plus profondes et plus ouvertes que la région que nous habitons, tantôt plus profondes, mais avec une ouverture plus étroite que chez nous, parfois aussi moins profonde et plus large que notre pays. Mais toutes ces régions communiquent entre elles, en beaucoup d'endroits, par des percées souterraines, tantôt plus étroites, tantôt plus larges, et par des conduits à travers lesquels une grosse quantité d'eau coule de l'une à l'autre, comme dans des bassins. Il y a aussi sous terre des fleuves intarissables d'une grandeur incroyable, qui roulent des eaux chaudes et froides, beaucoup de feu et de grandes rivières de feu. Il y en a beaucoup aussi qui charrient une boue liquide, tantôt plus pure, tantôt plus épaisse, comme en Sicile les torrents de boue qui précèdent la lave et comme la lave elle-même. Les diverses régions se remplissent de ces eaux, selon que l'écoulement se fait vers l'une ou l'autre, chaque fois qu'il se produit. Toutes ces eaux se meuvent vers le haut et vers le bas, comme un balancier placé dans l'intérieur de la terre. Voici par quelle disposition naturelle se produit cette oscillation. Parmi les gouffres de la terre, il en est un particulièrement grand qui traverse toute la terre de part en part. C'est celui dont parle Homère quand il dit « bien loin, dans l'abîme le plus profond qui soit sous la terre ». Et que lui-même, à d'autres endroits, et beaucoup d'autres poètes ont appelé « le Tartare ». C'est en effet dans ce gouffre que se jettent tous les fleuves, et c'est de lui qu'ils sortent de nouveau. Et chacun d'eux tient de la nature de la terre à travers laquelle ils coulent. Ce qui fait que tous les fleuves sortent de ce gouffre et y reviennent, c'est que leurs eaux ne trouvent là ni fond ni appui. Alors elles oscillent et ondulent vers le haut et le bas. L'air et le vent qui les enveloppent font de même, car ils les accompagnent, soit lorsqu'elles se précipitent vers l'autre côté de la terre, soit de ce côté-ci. Et de même que, lorsqu'on respire, le souffle ne cesse pas de courir, tantôt expirer, tantôt aspirer, Ainsi aussi là-bas, le souffle qui oscille avec l'eau produit des vents terribles et irrésistibles en entrant et en sortant. Quand l'eau se retire, dans le lieu que nous appelons le bas, elle afflue à travers la terre dans les courants qui sont de ce côté-là et les remplit, à la façon d'un irrigateur. Lorsqu'au contraire, elle abandonne ces lieux et se lance vers les nôtres, elle remplit à nouveau les courants de ce côté-ci. Une fois remplis, ils coulent par les canaux à travers la terre et se rendent chacun respectivement aux endroits où ils trouvent leur chemin frayé, pour y former des mers, des lacs, des fleuves et des sources. De là, pénétrant de nouveau sous la terre et parcourant les uns des régions plus vastes et plus nombreuses, les autres des espaces moins nombreux et moins grands, ils se jettent de nouveau dans le Tartare. Les uns s'y écoulent beaucoup plus bas que le point où ils ont été puisés, les autres à peu de distance au-dessous, mais tous plus bas qu'ils ne sont partis. Certains y rentrent à l'opposite du point d'où ils sont sortis, certains du même côté. Il y en a aussi qui ont un cours tout à fait circulaire, et qui, après s'être enroulés une ou plusieurs fois autour de la terre comme des serpents, descendent aussi bas que possible pour se rejeter dans le Tartare. Ils peuvent descendre dans l'une ou l'autre direction jusqu'au centre, mais pas au-delà, car de chaque côté du centre, une pente escarpée s'oppose au courant de l'un et l'autre hémisphère. Ces courants sont nombreux et considérables. Il y en a de toutes sortes. Mais dans le nombre, on en distingue quatre, dont le plus grand et le plus éloigné du centre est l'océan, dont le cours encercle le globe. À l'opposite et en sens contraire de l'océan, coule l'Achéron, qui traverse des déserts et qui, coulant aussi sous terre, parvient aux marais croîtus où se rendent les âmes de la plupart des morts. Après y être restées un temps marqué par le destin, les unes plus longtemps, les autres moins, elles sont renvoyées pour renaître parmi les vivants. Un troisième fleuve sort entre ces deux-là, et tout près de sa source se jette dans un lieu vaste, brûlé d'un feu violent. Il y forme un lac plus grand que notre mer, bouillonnant d'eau et de boue. Il sort de là par des méandres troubles et fangeux, s'enroule autour de la terre, et gagne d'autres lieux jusqu'à ce qu'il arrive à l'extrémité du marais à Kérouziad, mais sans se mêler à son eau. Enfin, après avoir formé maintes spirales sous terre, il se jette dans le Tartare en un point plus bas que la Kérouziad. C'est le fleuve qu'on nomme Pyriphlégethon, dont les courants de lave lancent des éclats en divers points de la surface de la terre. En face de celui-ci, le quatrième fleuve débouche d'abord dans un lieu qu'on dit terrifiant et sauvage, qui est tout entier revêtu d'une coloration bleue sombre. On l'appelle Stygien, et Styx, le lac que forme le fleuve en s'y déversant. Après être tombé dans ce lac, et avoir pris dans son eau des propriétés redoutables, il s'enfonce sous la terre, et s'avance en spirale dans la direction contraire à celle du Pyriphlégethon, qu'il rencontre du côté opposé, dans le lac à Kérouziad. Il ne mêle pas non plus son eau à aucune autre, et lui aussi, après un trajet circulaire, se jette dans le Tartare, à l'opposite du Pyriphlégethon. Son nom, au dire des poètes, est Cocyte. Telle est la disposition de ces fleuves. Quand les morts sont arrivés à l'endroit où leurs démons respectifs les amènent, ils sont d'abord jugés, aussi bien ceux qui ont mené une vie honnête et pieuse que ceux qui ont mal vécu. Ceux qui sont reconnus pour avoir tenu l'entre-deux dans leur conduite se dirigent vers l'Achéron, s'embarquent en des nacelles qui les attendent et les portent au marais à Kérouziad. Ils y habitent et s'y purifient. S'ils ont commis des injustices, ils en portent la peine et sont absous. S'ils ont fait de bonnes actions, ils en obtiennent la récompense, chacun suivant son mérite. Ceux qui sont regardés comme incurables à cause de l'énormité de leurs crimes, qui ont commis de nombreux et graves sacrilèges, de nombreux homicides contre la justice et la loi, ou tout autre forfait du même genre, à ceux-là, leur lot, c'est d'être précipités dans le Tartare, d'où ils ne sortent jamais. Ceux qui sont reconnus pour avoir commis des fautes expiables, quoique grandes, Par exemple, ceux qui, dans un excès de colère, se sont livrés à des voies de fait contre leur père ou leur mère, et qui ont passé le reste de leur vie dans le repentir, ou qui ont commis un meurtre dans des conditions similaires, ceux-là doivent nécessairement être précipités dans le tartare. Mais lorsqu'après y être tombés, ils y ont passé un an, le flot les rejette. Les meurtriers dans le Cocyte, ceux qui ont porté la main sur leur père ou leur mère, dans le Pirifle et Guéton. Quand le courant les a portés au bord du marais Akérousiade, ils appellent à grands cris. Les uns ceux qu'ils ont tués, les autres ceux qu'ils ont violentés. Puis ils les supplient et les conjurent de leur permettre de déboucher dans le marais et de les recevoir. S'ils les fléchissent, ils y entrent et voient la fin de leurs maux. Sinon, ils sont de nouveau emportés dans le Tartare, et de là dans les fleuves, et leur punition continue jusqu'à ce qu'ils aient fléchi ceux qu'ils ont maltraités. Car telle est la peine qui leur a été infligée par les juges. Enfin, ceux qui se sont distingués par la sainteté de leur vie, et qui sont reconnus pour tels, ceux-là sont exemptés de ces séjours souterrains et délivrés de cet emprisonnement. Ils montent dans une demeure pure et habitent sur la terre. Et parmi ceux-là même, ceux qui se sont entièrement purifiés par la philosophie vivent à l'avenir absolument sans corps et vont dans des demeures encore plus belles que les autres. Mais il n'est pas facile de les décrire, et le temps qui me reste à cette heure n'y suffirait pas. Ce que je viens d'exposer, Signas, nous oblige à tout faire pour acquérir la vertu et la sagesse pendant cette vie, car le prix est beau et l'espérance est grande. Soutenir que ces choses-là sont comme je les ai décrites ne convient pas à un homme sensé. Cependant, qu'il en soit ainsi ou à peu près ainsi en ce qui concerne nos âmes et leurs habitacles, il me paraît, puisque nous avons reconnu que l'âme est immortelle, qu'il n'est pas outrecuidant de le soutenir, et quand on le croit, que cela vaut la peine d'encourir le risque, car le risque est beau. Et il faut se répéter cela à soi-même, comme des paroles magiques. Voilà pourquoi j'ai insisté si longtemps sur ce mythe. Ces raisons doivent rassurer sur son âme l'homme qui, pendant sa vie, a rejeté les plaisirs et les ornements du corps, parce qu'il les jugeait étrangers à lui-même et plus propres à faire du mal que du bien, et qui s'est adonné aux plaisirs de la science, et qui, après avoir orné son âme, non d'une parure étrangère, mais de celle qui lui est propre, j'entends, la tempérance, la justice, le courage, la liberté, la vérité, attend en cet état son départ pour l'Hadès, prêt à partir quand le destin l'appellera. Vous, Simias et Sébès, et les autres, ajouta-t-il, vous ferez plus tard ce voyage, chacun à votre tour et à votre temps. Pour moi, c'est en cet instant que la destinée m'appelle, comme dirait un héros de tragédie. C'est en effet à peu près l'heure pour moi d'aller au bain, car je crois qu'il vaut mieux prendre le bain avant de boire le poison et épargner aux femmes la peine de laver un cadavre. Quand Socrate eut fini de parler, Criton dit « C'est bien, mais quelle recommandation nous fais-tu, aux autres et à moi, au sujet de tes enfants et de toute autre chose, et que nous pourrions faire de mieux pour te rendre service ?»« Rien de neuf, Criton, » repartit Socrate, « mais ce que je vous répète sans cesse, ayez soin de vous-même, et quoi que vous fassiez, vous me rendrez service, à moi, aux miens et à vous-même, alors même que vous n'en conviendrez pas sur le moment. Mais si vous vous négligez vous-même, et si vous ne voulez pas vous conduire, en suivant comme à la trace ce que je viens de dire et ce que je vous ai dit précédemment, vous aurez beau prodiguer aujourd'hui les plus solennelles promesses, vous n'en serez pas plus avancé. » « Nous mettrons donc tout notre zèle, dit Criton, à suivre ton conseil. Mais comment devons-nous t'ensevelir ?»« Comme vous voudrez, dit-il, si toutefois vous pouvez me saisir et que je ne vous échappe pas. » Puis, souriant doucement et tournant en même temps les yeux vers nous, il ajouta « Je n'arrive pas, mes amis, à persuader à Criton que je suis le Socrate qui s'entretient en ce moment avec vous et qui ordonne chacun de ses arguments. Il s'imagine que je suis celui qu'il verra mort tout à l'heure. » Et il demande comment elle devra m'ensevelir. Tout ce long discours que j'ai fait tout à l'heure pour prouver que, quand j'aurai bu le poison, je ne resterai plus près de vous, mais que je m'en irai vers les félicités des bienheureux, il le regarde, je crois, comme un parlage destiné à vous consoler et à me consoler moi-même. Soyez donc mes cautions auprès de Criton, ajouta-t-il. Donnez-lui la garantie contraire à celle qu'il a donnée à mes juges. Il s'est porté garant que je resterai. Vous, au contraire, garantissez-lui que je ne resterai pas, quand je serai mort, mais que je m'en irai d'ici, afin qu'il prenne les choses plus doucement, et qu'en voyant brûler ou enterrer mon corps, il ne s'afflige pas pour moi, comme si je souffrais des maux effroyables, et qu'il n'aille pas dire à mes funérailles qu'il expose, qu'il emporte ou qu'il enterre Socrate. Sache bien, en effet, excellent Criton, lui dit-il, qu'un langage impropre n'est pas seulement défectueux en soi, mais qu'il fait encore du mal aux âmes. Aie donc confiance, et dis que c'est mon corps que tu ensevelis, et ensevelis-le comme il te plaira, et de la manière qui te paraîtra la plus conforme à l'usage. » Quand il eut dit cela, il se leva et passa dans une autre pièce pour prendre son bain. Criton le suivit. Quant à nous, Socrate nous pria de l'attendre. Nous l'attendîmes donc, tantôt en nous entretenant de ce qu'il avait dit et le soumettant à un nouvel examen, tantôt en parlant du grand malheur qui nous frappait. Nous nous sentions véritablement privés d'un père et réduits à vivre désormais comme des orphelins. Quand il eut pris son bain, on lui amena ses enfants. Il avait deux fils encore petits et un grand. Et ses parentes arrivèrent aussi. Il s'entretint avec elles en présence de Criton, leur fit ses recommandations, puis il dit aux femmes et à ses enfants de se retirer, et lui-même revint nous trouver. Le soleil était près de son coucher, car Socrate était resté longtemps à l'intérieur. Après cela, l'entretien se borna à quelques paroles, car le serviteur des onze se présenta, et s'approchant de lui, « Socrate, dit-il, je ne me plaindrai pas de toi comme des autres, qui se fâchent contre moi et me maudissent, quand sur l'injonction des magistrats, je viens leur dire de boire le poison. Pour toi, j'ai eu mainte occasion, depuis que tu es ici, de reconnaître en toi l'homme le plus généreux, le plus doux et le meilleur qui soit jamais entré dans cette maison. Et maintenant encore, je suis sûr que tu n'es pas fâché contre moi, mais contre les auteurs de ta condamnation, que tu connais bien. À présent donc, car tu sais ce que je suis venu t'annoncer, adieu. Tâche de supporter le plus aisément possible ce qui est inévitable. » Et en même temps, il se retourna, fondant en larmes, pour se retirer. Alors Socrate, se levant les yeux vers lui, « Adieu à toi aussi, dit-il, je ferai ce que tu dis. » Puis s'adressant à nous, il ajouta, « Quelle honnêteté dans cet homme. Durant tout le temps que j'ai été ici, il est venu me voir et causer de temps à autre avec moi. C'était le meilleur des hommes, et maintenant encore, avec quelle générosité il me pleure. Mais allons, Criton, obéissons-lui, qu'on m'apporte le poison s'il est broyé, sinon qu'on le broie. » Criton lui répondit, « Mais je crois, Socrate, que le soleil est encore sur les montagnes et qu'il n'est pas encore couché. D'ailleurs, je sais que bien d'autres ne boivent le poison que longtemps après que l'ordre leur en a été donné, après avoir dîné et bu copieusement, que quelques-uns même ont joui des faveurs de ceux qu'ils aimaient. Ne te presse donc pas, tu as encore du temps. » « Il est naturel, reprit Socrate, que les gens dont tu parles se conduisent ainsi, car ils croient que c'est autant de gagner. Quant à moi, il est naturel aussi que je n'en fasse rien, car je n'ai, je crois, rien à gagner à boire un peu plus tard. Je ne ferai que me rendre ridicule à mes propres yeux en m'accrochant à la vie et en épargnant une chose que je n'ai déjà plus. Mais allons, dit-il, écoute-moi et ne me contrarie pas. » À ces mots, Criton fit signe à son esclave qui se tenait près de lui. L'esclave sortit et, après être resté un bon moment, rentra avec celui qui devait donner le poison, qu'il portait tout broyé dans une coupe. En voyant cet homme, Socrate dit, « Eh bien, mon brave, comme tu es au courant de ces choses, dis-moi ce que j'ai à faire. » « Pas autre chose, répondit-il, que de te promener quand tu auras bu, jusqu'à ce que tu sentes tes jambes s'alourdir, et alors de te coucher. Le poison agira ainsi de lui-même. » En même temps, il lui tendit la coupe. Socrate la prit avec une sérénité parfaite, et Écrate, sans trembler, sans changer de couleur ni de visage. Mais regardant l'homme en dessous de ce regard de taureau qui lui était habituel. « Que dirais-tu, demanda-t-il, si je versais un peu de ce breuvage en libation à quelque dieu? Est-ce permis ou non ?»« Nous n'embroyons, Socrate, dit l'homme, que juste ce qu'il en faut boire. »« J'entends, dit-il, mais on peut du moins, et l'on doit même, prier les dieux pour qu'ils favorisent le passage de ce monde à l'autre. C'est ce que je leur demande moi-même, et puissent-ils m'exaucer ?» Tout en disant cela, il portait la coupe à ses lèvres, et il la vida jusqu'à la dernière goutte, avec une aisance et un calme parfait. Jusque-là, nous avions eu presque tous assez de force pour retenir nos larmes. Mais en le voyant boire, et quand il eut bu, nous n'en fûmes plus les maîtres. Moi-même, j'eus beau me contraindre, mes larmes s'échappèrent à flots. Alors je voilai la tête, et je pleurais sur moi-même. Car ce n'était pas son malheur, mais le mien que je déplorais, en songeant de quel ami j'étais privé. Avant moi déjà, Criton n'avait pu contenir ses larmes, et il s'était levé de sa place. Pour Apollodore, qui déjà auparavant n'avait pas un instant cessé de pleurer, il se mit alors à hurler, et ses pleurs et ses plaintes fendirent le cœur à tous les assistants, excepté Socrate lui-même. « Que faites-vous là ? » s'écria-t-il, « étranges amis. Si j'ai renvoyé les femmes, c'était surtout pour éviter ces lamentations déplacées, car j'ai toujours entendu dire qu'il fallait mourir sur des paroles de bon augure. Soyez donc calmes et fermes. » En entendant ces reproches, nous rougîmes et nous retînmes de pleurer. Quant à lui, après avoir marché, il dit que ses jambes s'alourdissaient et il se coucha sur le dos, comme l'homme le lui avait recommandé. Celui qui lui avait donné le poison, le tâtant de la main, examinait de temps à autre ses pieds et ses jambes. Ensuite, lui ayant fortement pincé le pied, il lui demanda s'il sentait quelque chose. Socrate répondit que non. Il lui pinça ensuite le bas des jambes, et portant les mains plus haut, il nous faisait voir ainsi que le corps se glaçait et se raidissait. Et le touchant encore, il déclara que, quand le froid aurait gagné le cœur, Socrate s'en irait. Déjà la région du bas-ventre était à peu près refroidie. Lorsque, levant son voile, car il s'était voilé la tête, Socrate dit, et ce fut sa dernière parole, « Criton, nous devons un coq à Asclépios. Payez-le, ne l'oubliez pas. »« Oui, ce sera fait, » dit Criton. « Mais vois si tu as quelque autre chose à nous dire. » À cette question, il ne répondit plus. Mais quelques instants après, il eut un sursaut. L'homme le découvrit. Il avait les yeux fixes. En voyant cela, Criton lui ferma la bouche et les yeux. Telle fut la fin de notre ami, Échecrate, d'un homme qui, nous pouvons le dire, fut parmi les hommes de ce temps que nous avons connu, le meilleur, et aussi le plus sage et le plus juste.